Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et oui, c'est le dernier numéro de la grande hebdo de Chut, on écoute la télé de cette année 2024 et l'occasion pour nous eh bien, de faire un petit coup d'œil dans le rétro et de regarder toutes les belles choses que nous avons vécues déjà depuis le début de cette saison. L'occasion pour nous eh bien, de vous proposer un best-of pour revivre la venue de l'équipe du film Fêlé dans un instant avec Pierre Richard, François Berléand et Charlotte de Turckheim que nous avions reçu le 9 septembre dernier. On va revivre également la venue de Maïel El Hajjaoui et Nelly Lawson pour la série Demain nous appartient avec Georges et Mélodie. Ils vont nous parler de, évidemment de leur personnage. On va revivre la venue de Danny Boone avec Laurence Arnay. C'était en juin dernier, juste avant la fin de la saison. Et puis Loïc et Ludivine de Marie au premier regard également ont été nos invités, étaient revenus sur leur parcours de l'année dernière. Et puis on terminera l'année comme on a commencé la saison avec la venue, rappelez-vous, de Joseph Kamel qui est le parrain de notre saison. On va revivre ce grand moment également tous ensemble. Alors c'est parti pour le best-of et la dernière grande hebdo de Chut, on écoute la télé 2024.
Chut, on écoute la télé, le best-of, le best-of.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être là. François Berléand qui est avec nous aussi. Bonjour François.
Bonjour.
Et Charlotte de Turckheim qui est là avec nous aussi. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là tous les trois pour parler à la fois de ce film qui raconte l'histoire de l'association Arc-en-Ciel, qui est un lieu associatif qui accueille des patients ayant souffert de troubles psychologiques. C'est à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, qu'on peut découvrir cette association. C'est une véritable association qui existe aujourd'hui et qui aide, et c'est pour ça aussi que le film porte bien le nom Fêlé, des personnes qui ont subi des fêlures dans leur vie, qui ont subi des blessures psychologiques, violentes par moments aussi, et qui viennent se reconstruire. Donc Charlotte, vous jouez la mère de la ville. François Berléand, vous jouez le rôle du directeur d'une entreprise qui donne sa chance justement aussi. Et puis, pas toujours.
Pas aussi sympathique que ça quand même.
Non, il n'est pas toujours sympathique.
S'il prend un adhérent, c'est parce qu'il y a des subventions très importantes.
Il a du mal à admettre que sa fille est différente. Et je peux le comprendre d'ailleurs. Quand on a un enfant comme ça, je pense que pour un parent, c'est très très perturbant.
Et voilà qu'elle tombe amoureuse d'un fêlé. Alors évidemment, il n'est pas très content. Il ne comprend pas surtout.
En tout cas, Pierre, Richard Rougeau, Pierre, le fondateur justement de l'association qui va essayer, dans le film, hein, qui va essayer de se démener puisque l'association est vouée à changer d'adresse, à changer d'endroit. Sauf que Pierre... Bah lui, il a beaucoup d'histoire dans cet endroit-là. Il a toute une histoire personnelle. Il y a plein de choses qui sont remuées face à ce potentiel déménagement.
Bah vous avez tout dit. Oui, non, c'est parce qu'effectivement, il a fondé cette association, il a fondé cette maison avec son épouse. Elle était très intéressée par le problème des fêlés. Et puis, je l'ai suivie au fond. Et on a fondé cette maison et puis voilà qu'elle décède. Et donc, je continue sans elle. Et voilà qu'en plus, on nous voilà obligés de céder cette maison parce qu'on n'a pas d'argent pour ni pour l'acheter, ni pour la louer, et qu'on va me virer. Et pour moi, c'est un désastre. Alors tout le film, il est que tous ses abonnés, ses fêlés, se mettent tous d'accord pour cette chose complètement insensée. C'est bon, ben on va gagner de l'argent pour pouvoir l'acheter. Autant dire que le premier jour, ils avaient récolté 30 euros.
Ça s'avère compliqué.
Et moi, j'étais désespéré. Donc, à la fois, ce film, il est, je dis pas qu'il est tragique, mais il est quand même parfois grave, triste et un peu dramatique et tout. Et puis, et c'est ça qu'il y a de mieux dans les comédies, c'est quand il y a un mélange de comédie et de tragique et de comédie, l'un et l'autre se confortent d'ailleurs, et tous ces fêlés se mettent en quatre selon leur manière, leur méthode, pour essayer de trouver de l'argent, ce qui est évidemment complètement, je dirais qu'on touche au burlesque même. Hein, on touche au burlesque carrément.
Et c'est ça qui est drôle.
Le burlesque, c'est ce mélange de trivial et de solennel.
Et puis à la fois avec Bernard Lecoq, j'ai ce duo tous les deux avec Bernard. Lui est presque...
Bernard, c'est un homme, comment dirais-je, sensé, rationnel. Lui, il n'arrête pas de me dire, mais t'es fou, tu vas jamais pouvoir acheter cette maison.
Déménageons.
Oui, puis d'autant plus qu'on peut avoir une très belle maison pour rien. Et moi, je veux garder celle-là parce que c'est celle de mon ex-épouse. Mais évidemment, c'est complètement fou. C'est dans ma tête. C'est d'où justement le tragique et le burlesque dans le film.
François, c'est amusant de jouer justement ce chef d'entreprise, alors qui au début paraît plutôt sympathique et puis qui s'avère, je voulais pas trop en dévoiler moi tout à l'heure, mais
oui, c'est encore une fois, moi quand j'ai lu le scénario, je me suis posé la question. Mais je venais de voir un film qui s'appelait Sur l'Adamant, qui était un documentaire de Nicolas Philibert, absolument extraordinaire, sur justement des cas psychiatriques soignés dans une espèce de structure un peu comme
ça.
Oui, absolument, ouais. Tout à fait. Donc c'est un bateau sur la Seine, à côté de Bercy. J'ai été bouleversé par le film et, je sais pas, deux semaines après, on m'a donné le scénario. Je sais pas si je l'aurais accepté, ça m'avait vraiment intéressé. Je me suis dit, mais si on peut faire la même chose, c'est tellement... Voilà, c'est important de faire un film comme ça parce que, on a toujours des a priori sur... sur ce qui n'est pas normal, sur la non-normalité. Et je pense que ce film va peut-être, enfin pour ceux qui le verront, va au moins pendant 6 mois, les faire changer un peu d'avis sur l'autre. Celui qu'on ne connaît pas, celui dont on a peur. Maintenant, les fêlés, voilà, est-ce que ce n'est pas eux qui sont dans la vraie vie, quoi ?
C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser, hein, surtout en voyant le film. Et puis cette mère que vous jouez, pour le coup, M-A-I-R-E, hein, Charlotte, aux prises avec les politiques, c'est tellement d'actualité.
Oui, et surtout moi, je vous avouerai que c'est pas tant ça qui m'a motivée dans le film, c'est le fait que j'adhère profondément au fait qu'on est tous un peu fêlés et que nous, les comédiens, peut-être que notre chance, c'est de pouvoir la faire vivre cette folie. On dit tous, moi je suis toujours très troublée d'entendre pratiquement tous les acteurs disent si j'avais pas fait ça, je serais devenu dingue. Ou si j'avais pas fait ça, je suis en prison. Si j'avais pas fait ça, je serais alcoolique. Donc notre métier nous permet d'être plein de personnalités différentes et ça nous évite peut-être le pire, quoi. Donc je pense que cette fêlure, cette dinguerie, on est extrêmement nombreux à l'avoir, presque tout le monde, je pense, et qu'à un moment on craque ou on craque pas, on a vraiment, selon les accidents de la vie, comme ils disent, vous perdez votre boulot, votre femme vous quitte, vous perdez quelqu'un de cher, et puis d'un coup, on peut sombrer d'un coup, quoi. Et ben, il y a un endroit où on vous attend et on peut vous accompagner, on n'est pas tout seul.
C'est ça qui est beau dans cette maison, l'arc-en-ciel. Il y a un groupe, c'est en autogestion totale. Et donc ce groupe fait que les gens vont mieux puisqu'ils peuvent parler, puisqu'ils peuvent...
C'est la solitude qui est dramatique. Les gens, ils crèvent de solitude et encore plus quand on va, les moments où on va pas bien, on a tous tendance évidemment à rester dans notre coin et ça empire les choses. Là, le fait d'avoir ce espèce de rendez-vous même tous les matins, ce cérémonial du café tous ensemble.
Ils sont déjà ensemble. Il y a ceux qui sont de corvée de cuisine, ceux qui sont de corvée de vaisselle, ceux qui sont... C'est une espèce comme ça, de vie commune.
L'évolution, puis ils s'apportent tous les uns les autres. On le voit parce qu'avec le nouvel adhérent qui arrive, lui, qui a des idées, par exemple, sur Internet, etc., pour essayer de développer le crowdfunding, etc. On le voit bien.
La gestion, les courses, ils s'entendent entre eux, ils rient. Nous, on n'a jamais senti, d'ailleurs, la moindre tension. En un mois et demi, j'ai jamais vu un ou deux qui s'engueulent ou tout ça. Même une petite... Non, au contraire.
Et Patrick Devalet aussi, il a dit un truc qui était vachement intéressant. C'est un des acteurs du film de Les Chiches Capons. Il a dit, c'était mon plus beau tournage. Je dis, ah, c'est incroyable que tu dises ça. Il me dit, parce que tu sais, sur les tournages, il y a tellement d'ego, les acteurs, les techniciens, les machins. Il y a toujours des petites histoires, des petits drames, des petits trucs un peu minables, en fait. Et là, il y avait quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de plus important que nos petites personnes et nos petits égos. Et donc, du coup, ça faisait une ambiance, comme dit Pierre, extrêmement chaleureuse et paisible, parce qu'on n'allait pas s'engueuler pour savoir qui est la plus grande loge, quoi. Bien sûr, tu vois. Oui.
Pour comprendre qui sont nos adhérents, imaginez un homme ordinaire, mais abîmé, fragile, quoi. AVC, burn-out, rupture amoureuse, un accident, une faillite.
On peut dire que ce lieu concerne potentiellement tout le monde.
C'est la maison, le problème ?
Malheureusement, la question ne se pose pas. La mairie est obligée de vendre.
Il doit bien y avoir une solution.
À part l'acheter nous-mêmes, cette maison, je vois pas...
Bah voilà, c'est super, ça.
Bah oui.
Vous avez essayé le crowdfunding.
Et à noter que Félé sortira d'ailleurs en DVD et en Blu-ray en ce début d'année 2025, courant janvier. Un rendez-vous à ne pas rater. La suite de notre best-of de Chute en écoute la télé, la dernière de la saison 2024, de cette année 2024, c'est dans un instant. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars... C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
On dit que ceux qui se ressemblent, souvent s'assemblent. Y'a les gens d'en haut et les gens d'en bas.
S'ils ne veulent pas qu'on soit ensemble, que leurs mains tremblent. On n'arrête pas un cœur qui bat. On se moque de ce qu'ils pensent. On les provoque pour eux, c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, ma robe blanche est la réponse à leurs offenses.
Sont pas des anges. Qu'est-ce que ça change? Qu'on goûte aux fruits de notre passion.
Pourquoi faut-il que ça dérange quand on se mélange? Au diable toutes les conventions.
On se moque de ce qu'ils pensent. On les provoque pour eux, c'est perdu d'avance. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, la robe blanche est la réponse à leurs offenses. Je vois dans leurs yeux la haine et le feu. Mais de leur colère on se joue. Tant que notre amour est fou,
il défiera toutes les lois. On criera sur tous les toits. Tu es ma chance et rien n'a d'importance.
Oh mon amour, tu es ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens.
Oh mon amour, ma robe blanche est la réponse à leurs offenses.
Oh mon amour, c'est ma chance. Si je renonce, plus rien n'a de sens. Oh mon amour, la robe blanche est la réponse à leurs offenses.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et oui, ils sont deux de vos héros de la série Demain nous appartient. Mayel El-Hajaoui qui joue Georges et Nelly Lawson qui joue Mélodie étaient nos invités. C'était en octobre dernier. On les recevait pour une interview couple dans la série. Pour notre plus grand plaisir, eh bien, nous allons revivre ensemble ce moment.
Revivre le meilleur de Chut, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chut, on écoute la télé, le best-of.
Et Mayel El-Hajaoui est notre invité et accompagné de sa Mélodie chérie, Nelly Lawson, qui est avec nous aussi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, il était temps que Georges, quand même, retrouve une promise.
Ouais, il était temps, il est très heureux et il a une belle promise. Il l'a bien trouvé sous des gravats d'un lycée. Comme quoi, hein.
Qui s'est effondré.
Qui s'est, belle trouvaille, hein, sous tous ces gravats.
C'est un trésor.
C'est un très beau trésor. Bravo.
Et il l'a sauvé quand même, il lui a sauvé la vie. Et c'est vrai que ça a créé un lien indéfectible entre ces deux personnages. Au début, qui se sont cherchés, on s'est dit, mais quand c'est qu'ils vont se trouver ces deux-là? Ça y est, il était temps.
Bah ouais, il était temps parce que Georges, il en a fait baver, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas qu'il voulait pas, c'est qu'il savait pas comment faire. Et elle, elle était, voilà, elle était dans ce truc de, il m'a sauvé la vie et en plus, je suis amoureuse de lui. Donc voilà, c'était très intense. Mais finalement, ça s'est fait quand même.
Puis alors Maïel, trouver une copine qui a grâce aux yeux de ta mère, quand même.
C'est rare et comme quoi là, ça se passe bien. Donc on va essayer que les auteurs nous laissent un peu tranquille dans notre histoire d'amour. Mais tout peut arriver sur Demain nous appartient, donc rien n'est acquis. Et je suis content que Catherine Benguigui, ma maman que j'aime, aime ma chérie.
Notre Mona, je suis fan, mais fan tellement de Catherine et de son personnage de Mona, qu'on aime tellement tous.
Ouais, on aime tous et moi je l'aime plus, donc faites attention les gars, personne ne touche à ma mère. Hein.
Ah quand même, hein. Alors il faut dire que... Il y a quelque chose de très dramatique et à la fois très beau qui est arrivé dans la vie de Georges. C'est cet enfant, ce petit Lucien.
Magnifique. Une expérience incroyable à jouer à l'écran. Parce que je suis papa, donc je sais le bonheur et cette beauté de pouvoir avoir des responsabilités autres que de s'occuper de son petit nombril. Et donc, c'est sympa d'avoir, en plus la chance d'avoir une chérie qui accepte et qui m'aide à pouvoir gérer cette petite beauté d'enfant de Lucien.
C'est vrai que Mélodie a fait preuve d'une bienveillance à toute épreuve dans l'arrivée de ce petit. Elle n'a pas brusqué Georges, elle a été vraiment à ses côtés tout en étant un peu sur la réserve aussi pour le laisser appréhender un peu tout ça. C'était très beau à voir en tout cas ces scènes-là.
Ouais, oui c'est vrai, tout à fait. C'était très chouette à jouer aussi parce qu'il y avait voilà cette arrivée en douceur. Oui, elle a été très compréhensive et puis on comprend aussi par la suite qu'en fait ce qu'elle vit avec Lucien dans le développement de leur relation, c'est aussi ce qu'elle n'a pas pu vivre avec son propre fils.
Bastien, qu'on a découvert, et ben oui, ça y est, le poteau rose.
Ça y est, ben oui, ça a été un événement incroyable dans la vie de Mélodie et dans la vie de Georges aussi, dans leur vie à tous les deux. Donc voilà.
La relation s'apaise, s'adoucit entre Mélodie et Bastien quand même. On a l'impression que petit à petit, ces deux-là vont finir par s'apprivoiser. T'as vu, je suis, hein, je rate rien.
Je vois ça, bravo.
C'est tout ce qu'on fait.
Non, c'est super. Bah oui, puis c'est vrai que Mélodie, elle en a très envie, donc elle fait beaucoup de propositions. Parfois, pour Bastien, c'est un peu difficile parce qu'il est aussi traversé par beaucoup de colère, de rejet. Il a vécu des trucs extrêmement traumatiques récemment. Donc voilà. Elle veut être là pour lui, pour aussi l'aider à se reconstruire. Maintenant qu'il a perdu son père, etc. Mais je crois que c'est vrai, c'est plutôt bien parti. Elle va essayer de participer à son association. Il va faire avec son association Brassos un événement pour Noël dans lequel elle va chanter, elle va l'aider. Donc voilà, c'est en bonne voie, même si ça prend son temps, mais c'est normal. C'est aussi comme ça, sainement, qu'on construit de belles relations.
C'est un peu un renouveau du coup pour le personnage de Georges, quand même tout ça entre la famille, le commissariat, sa vie de couple à gérer. Ça fait beaucoup pour lui. D'un coup là.
Ouais, c'est énorme, mais en même temps c'est ce qui est excitant de pas être dans une espèce de normalité de tournage, et c'est ce que propose et offre la quotidienne, c'est qu'on est tout le temps à pouvoir gérer plein de choses et avoir plein de choses qui nous arrivent, et donc ça nous met dans une perpétuelle obligation de jouer, de faire attention à ce qui se passe, et tout peut arriver en fait, c'est ça qui est génial.
Et à la fois dans la saison dernière, du coup, pendant ces un an, on a pu découvrir un Georges beaucoup plus à fleur de peau, beaucoup plus sensible aussi qu'avant.
Ouais, complètement, et c'est vrai que c'est beau à pouvoir jouer, dans le sens où on a plein de facettes qu'on a en tant qu'acteur, et c'est vrai que c'est en fonction de ce qu'on nous propose à jouer, qui fait que on va chercher, on va puiser dans telle ou telle facette, tel ou tel tiroir, et c'est un bonheur de pouvoir jouer plein de choses différentes, parce que la quotidienne, sur la longueur, ça te le permet, ce qui est pas possible sur un film au cinéma ou sur un unitaire.
Comment t'as vécu le fait d'être très rapidement adopté par les fans et de devenir un des personnages préférés? Aujourd'hui, Georges était pas forcément prévu pour rester très longtemps au tout début et finalement a tellement été adopté vite qu'il a fallu lui écrire quand même des intrigues et qu'aujourd'hui, les fans, ils l'adorent, Georges.
C'est adorable, mais ça me touche aussi. C'est pour ça que j'essaie de leur rendre. On leur rend du mieux qu'on peut par du temps, des photos, des autographes, des petits moments où on peut parler ensemble. Et c'est vrai que j'ai la chance que le personnage ait plu, mais ça part aussi des auteurs, de ce que j'ai à jouer et ce qu'on m'écrit. Donc j'en suis très 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 reconnaissant et je leur dis encore une fois merci à tous ces gens qui nous suivent, qui me suivent et qui suivent surtout la série.
Bon, la seule chose qu'on peut redouter de Mélodie un peu, c'est ses cours de sport. J'avoue que des fois Ça y va quand même.
Ouais. Bah ouais, ça y va. Puis surtout qu'elle fait des coachings, elle est prof au lycée, elle donne des cours d'aquagym. Enfin, bientôt, c'est vrai qu'on va, on va se dire qu'elle va faire de l'équitation, de l'escrime et puis du judo, quoi. Donc c'est vrai qu'elle est très très complète. Et puis bah oui, c'est sa vie, hein, le sport. Donc voilà. Puis elle fait du sport beaucoup avec sa belle-mère aussi, qu'elle adore. Et c'est ça aussi qui a fait qu'elles ont créé une relation ensemble là-dessus.
J'adore les petits ensembles moulants de Mona. Quand c'est comme ça, c'est tellement drôle.
Ces tenues de sport sont vraiment trop bien choisies. C'est vraiment genre années 80, flash à fond. C'est excellent. Enfin, nous, on adore.
Vous arrivez à garder votre calme tous les deux, votre sérieux, devant les répliques que Catherine peut envoyer comme ça, qui elle en plus est à la recherche du prince charmant qui lui envoie des messages subliminales au restaurant, qui prend ça, mais elle prend tout au premier degré, Mona. Et c'est vrai que vous, en tant que comédien, quand elle vous donne la réplique, mais comment faire pour garder son sérieux? Parce que nous, quand on la regarde, on n'y arrive pas, hein, je vous le dis. Hein.
Non, c'est un bonheur, mais c'est ce qui, encore une fois, elle est imprévisible, Catherine, comme quasiment tout le monde sur DNA. On a nos petits secrets. C'est vrai qu'elle, elle est particulièrement drôle et sans le vouloir, donc c'est encore plus piégeux pour nous parce que parfois elle va nous dire des choses très premier degré, très sincères, et nous, ça nous fait éclater de rire, quoi.
Chut, on écoute la télé, le best-of.
L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne quand elle est arrivée. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était le lit, c'était le lot, c'était le là, c'était le lit, c'était le lot, c'était le là, c'était la gorfa Lolita, c'était le lit, c'était le lot, c'était le là, c'était le lit, c'était le lot, c'était le là, c'était la gorfa Lolita. Et j'attrape Lolita, et je me prends une chapate, car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? Mais c'était qui? Mais c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était Loli. C'était Lolo. C'était Lola. C'était la gorfa Lolita. C'était Loli. C'était l'oli, c'était l'olo, c'était l'ola. C'était l'oli, c'était l'olo, c'était l'ola. C'était la gorfa Lolita. C'était l'oli, c'était l'olo, c'était l'ola, c'était la gorfa Lolita.
Allez, on continue de dérouler les meilleurs moments de cette année 2024 qu'on a vécu dans Chut, on écoute la télé. Rappelez-vous, en juin sortait la famille Hendrix avec Danny Boone et Laurence Arnay. Danny Boone et Laurence Arnay qui étaient pour la première fois nos invités dans Chut, on écoute la télé. On était très très fiers de les recevoir et d'ailleurs, le film est sorti en DVD, VOD. Une belle idée cadeau pour ces fêtes si vous les avez pas encore tous fait, hein. Eh bien oui.
Revivre le meilleur de Chut, on écoute la télé, c'est tout de suite dans Chut, on écoute la télé, le best-of.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour Dany.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. C'est un vrai film dont on a besoin à quelques jours. Des vacances d'été, l'histoire d'une famille recomposée qui va être menée tambour battant par la maman qui va décider eh bien, d'emmener toute sa famille en road trip sur la côte atlantique. Laurence, je sais que c'est un projet qui germe et qui est très personnel puisque c'est aussi ton premier film. Il n'y a rien de plus important pour une réalisatrice.
Exactement, c'est mon premier film. J'ai mis du temps à l'écrire. Et je rêvais de réaliser depuis très longtemps, mais j'ai pris mon temps, j'ai fait des formations, j'ai appris beaucoup de choses sur le plateau en tant qu'actrice. Puis j'ai eu envie d'écrire une comédie sensible sur la recomposition familiale, tout en injectant aussi beaucoup de choses de mon enfance et tout ce rapport avec sa propre enfance à chaque fois, comme c'est toujours compliqué quand on devient parent aussi de faire le deuil de sa propre enfance. Et donc voilà, c'est des thématiques qui me touchaient, hein, tout en rajoutant la notion de road trip et de, parce que j'aime beaucoup toute la côte atlantique. Je suis originaire donc du sud-ouest d'Angoulême, bassin d'Arcachon, Royan, tout ça, c'est des paysages qui sont très forts pour moi, c'est mes racines. Donc c'était important de parler de cette reconnexion à la nature, de sentir l'odeur des pins, le soleil, et filmer tous ces paysages qui sont incroyables, et d'ajouter aussi la musique, voilà. La musique, Supertramp, c'est ce que j'écoutais avec mes parents. Et c'est aussi ce qu'on fait avec Dany. On fait beaucoup de musique avec les enfants et c'est ce qui a vachement aidé notre recomposition familiale. Donc j'avais envie de parler de ça de manière assez joyeuse et voilà.
Et tout en convoquant beaucoup de souvenirs personnels aussi dans l'écriture.
Ah oui, bien sûr, mais j'en avais besoin. Puis je parle aussi de mon enfance, donc des anecdotes personnelles, les croquettes de nouilles de ma grand-mère.
On va parler de ça. Ouais. Tu vas nous donner la recette, hein, j'espère.
Bah bien sûr, bien sûr. Puis voilà, j'avais très envie de toucher les gens, et je pense que souvent c'est d'une manière assez personnelle qu'on arrive à faire transpirer les images comme ça de sincérité, de choses qui peuvent, ouais, en effet, dans lesquelles les gens peuvent se retrouver aussi.
Après avoir dirigé Laurence dans la petite famille, notamment Dany, la vapeur s'est inversée puisque là, c'est Laurence qui t'a dirigé.
Il y a eu vengeance.
Ouais, j'ai l'impression.
Il y a eu grosse vengeance. Oui, c'est Laurence. Bah, elle m'a proposé son projet après l'avoir monté d'ailleurs et financé. Elle m'a proposé de jouer le rôle de Ludo. Et il y a beaucoup de choses personnelles dans son histoire, de son enfance et aussi de son histoire d'aujourd'hui. On est nous-mêmes une famille recomposée, avec beaucoup d'enfants, 6, et on fait de la musique ensemble, on est, voilà, et moi j'aime beaucoup son écriture et sa manière de filmer, de diriger. J'étais très heureux de tourner ce film, mais c'est une comédie à la fois drôle et puis très très touchante, très émouvante. Aux avant-premières, beaucoup de gens du public et de famille nous ont parlé de l'émotion que dégage le film, et les gens se sont identifiés beaucoup au personnage et on vit tous un peu la même chose, quoi. C'est ça qui est beau.
Et c'est une bande son sur laquelle on va continuer, qui est indémodable et qui va continuer à nous faire danser tout l'été dans les soirées. Et c'est ça qui est génial, ça nous met tout de suite dans l'ambiance estivale pour le coup. On pourrait parler de Justine. Qui est-elle, Justine, vue par Laurence Arnay?
Oh ben Justine, c'est une maman qui est prête à tout pour que son fils sourie à nouveau, qu'il ait envie de sortir de sa chambre et de lâcher son téléphone sur lequel il est en permanence pour se reconnecter à la nature, et qu'il ait envie de jouer le jeu de cette recomposition familiale, parce que souvent quand ça a foiré une première fois, les enfants sont en colère, ils choisissent pas le beau papa, la belle maman, les demi-frères et sœurs, et donc du coup Henri, il a les boules, il a pas envie, voilà, il veut retourner vivre chez son père, et cette mère, comme c'est son seul enfant, elle va tout faire,
quitte à le
ligoter et le mettre de force dans la bagnole pour partir en road trip. Voilà, elle est prête à tout par amour pour son fils, et je voulais parler de c'est un hommage aux femmes, en fait. aux parents, mais aux femmes aussi, parce que j'aborde beaucoup la charge mentale et la responsabilité qu'on a, enfin en tout cas par amour pour nos enfants, on le fait, on se plie en quatre pour leur transmettre des belles valeurs, pour que nos enfants soient heureux, soient joyeux, soient connectés aux autres et leur préserver aussi une sorte d'insouciance et garder l'espoir dans une société qui est aussi assez hyper violente. Dans laquelle nous on a eu de la chance de grandir nous dans des environnements qui étaient un peu plus doux et tout d'un coup cette maman elle a envie de protéger son fils quoi, elle a envie de protéger son fils et le rendre heureux donc elle est prête à tout.
Et on va s'apercevoir que les liens du cœur sont des fois aussi forts que les liens du sang, c'est ça dans les familles recomposées aussi, parce qu'elle est très très attachée au fils de Ludo finalement, Dani.
Oui bien sûr, à Jo qui est joué par Jeanne qui est un super, enfin les enfants sont super dans le film d'ailleurs, Jeanne et Ferdinand sont des super acteurs ados et enfants et oui ils sont mais c'est ce qui se passe aussi dans pareil, on en revient à la vraie vie, c'est-à-dire que ce qui est joli c'est l'écriture de Laurence et pour un film de famille où le portrait d'une mère et d'une belle-mère qui va se surpasser pour égayer la vie de et amener les familles. Enfants. Oui, c'est-à-dire créer des moments, des souvenirs en fait, parce que très souvent ce que dit assez justement Laurence, quand on est sur les quand les enfants, les gamins sont sur les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, quand on leur dit mais c'est quoi le souvenir que tu gardes de la journée, très souvent c'est les moments où on part se balader avec les enfants, où on fait un jeu de société, où on se met à faire du dessin ou de la musique, comme on fait aussi dans notre famille, on joue de la musique ensemble. Donc c'est ce lien-là et ces souvenirs-là créés, qui sont poussés par le personnage de Justine, qui sont très très fort, à la fois fort, drôle, et puis émouvant.
Ludo aussi, très émouvant, drôle, mais aussi émouvant. Et ça, drôle, c'était, ouais. C'était vraiment une volonté de Laurence, qu'il ne soit pas que comique, mais aussi qu'on sorte un peu et qu'on voit un Danny Boone autrement.
Oui, Ludo, c'est un très beau, un très joli personnage, qui est un peu lunaire, un peu à la fois assez souple. Il va suivre un peu la folie de sa femme, quoi, qui veut justement que la famille un peu dysfonctionnelle se ressoude et que cette famille recomposée se retrouve, quoi. C'est surtout ça. En fait,
il suit le mouvement un peu au final, au départ, et puis au fur et à mesure, il se prend au jeu, quoi.
Bah, il se prend au jeu. Il est amoureux. Il est très amoureux de Justine. Et puis il suit le délire de sa femme, quoi. Et il lui dit d'ailleurs, toi, vraiment, t'es folle. Et il lui dit. Même dans les moments un peu négatifs. Et ce qui est chouette, c'est que il galère un peu, c'est compliqué financièrement, et c'est pas ça qui empêche de passer des moments beaux, des moments forts. Ce qui est génial, c'est qu'on a tourné dans la région et qu'en plus les images sont dingues, quoi. On s'est baladé, on a fait un road trip dans des endroits absolument sublimes. Et ça rajoutait aussi à l'émotion de jouer des scènes. C'était très fort, franchement, d'être dans la région.
Elle part tous les quatre en vacances, à l'aventure.
Plutôt crever.
Aïe, Aline, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu là, mais je te connais, tu vas adorer.
On dort pas à quatre dans ce truc.
Mais si.
Maman !
Il y a 876 euros sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine.
Oh, putain. On a monté un groupe de musique.
Ouais ! D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom.
Faudra un truc qui claque.
Family. Recomposed.
C'est atroce.
Et rappelez-vous, Marié au premier regard a été un des grands moments évidemment de cette année 2024 avec une saison haute en couleurs où on a pu découvrir deux candidats malheureux en amour, mais en tout cas quelque chose me dit qu'on va revoir très très vite Ludivine en 2025 dans une toute nouvelle émission, un espèce de Marié au premier regard, peut-être seconde chance, bref, à surveiller. En tout cas, Loïc et Ludivine étaient à notre micro pour revenir sur leur aventure. On va revivre ce moment ensemble.
Chut, on écoute la télé, le best-of.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors ça y est, c'est terminé. Une aventure unique quand on la vit de l'intérieur. Comment on en ressort déjà tous les deux, avec du recul maintenant?
On en ressort grandi, vraiment. Une grande évolution, beaucoup d'apprentissage sur soi-même. C'est que du positif, vraiment.
Pour toi Loïc?
Bah, comme dit Ludivine, hein, c'est une expérience qui nous fait grandir et on est changé à jamais. Et il y a un petit pincement au cœur parce que c'est fini, ça y est. Mais on en ressort vraiment grandi et c'est une belle expérience.
Il faut savoir que c'est quand même une aventure que vous vivez en septembre-octobre. La diffusion, elle a lieu à partir du mois de mars, fin mars. Il y a quand même un gros décalage. Alors, il y a déjà cette émotion que vous vivez lors du tournage. Mais la diffusion, c'est encore autre chose aussi, parce que on a les gens qui s'immergent un peu dans notre vie personnelle, parce que vous montrez beaucoup de vous, vous donnez beaucoup quand même dans cette émission. Comment on vit ça aussi? Parce qu'il y a une chose, hein, c'est vivre le tournage, mais vivre la diffusion, c'est pas triste non plus.
Alors, la diffusion, c'est juste une étape en fait de l'expérience. Hein. On a commencé il y a un an et demi, on est passé par les sélections, après les tournages, le mariage, et donc il y a cette étape qui dure 3 mois, qui est la diffusion, auquel effectivement il faut être accroché, il faut se préparer, on fait comme on peut, mais et on le prend comme voilà, une étape de l'expérience dans sa globalité et il faut l'accueillir comme il se doit, on va dire.
Loïc ?
Ludivine a tout dit, hein. C'est vrai que c'est une expérience qui est compliquée à vivre et c'est un peu la finalité de l'expérience, c'est la diffusion. Alors c'est pas évident tous les jours, on passe par des moments compliqués, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette expérience, c'est qu'on se livre totalement et on se livre à nu pour montrer qui on est. Alors c'est pas toujours, c'est un petit peu scénarisé parfois, mais c'est quand même nous au final.
Eh ben oui, parce que c'est vrai que si tout se passe bien, que c'est un peu pépère, ben ça va pas intéresser les téléspectateurs, donc il faut l'intéresser, effectivement, ce téléspectateur. Moi, ce que j'aime aussi sur votre saison, c'est qu'on a l'impression qu'il y a aussi une alchimie entre vous, mine de rien, entre les candidats. Il y a quelque chose qui s'est passé peut-être en saison 8 et qui a décoincé pas mal de choses et qui permet à vous d'échanger, de s'y libérer, de discuter. Et peut-être rien d'autre de mieux qu'un autre candidat est mieux placé pour comprendre ce que vous avez vécu aussi.
Oui, de toute façon, dès qu'on a appris à se connaître, on s'est rencontrés au début de la diffusion. On a tout de suite choisi d'être comme une équipe, une famille, d'être dans l'impartialité, dans le soutien. Et c'est ce qu'on a fait tout au long de la diffusion, les uns pour les autres. Après, forcément, il y a des affinités qui se créent plus en fonction des personnalités. Mais on a choisi d'être tous positifs les uns pour les autres. Parce qu'en fait, il n'y a qu'entre nous et avec les anciens MAPR qu'on va vraiment pouvoir comprendre ce qu'on a vécu autant dans la partie mariage et dans la partie diffusion. C'est des émotions qu'on a partagées. Et donc, il y a une compréhension de l'autre qui fait que ça ne s'explique pas. Il y a un lien qui s'est tissé et c'est comme ça.
Et un soutien que vous apportez mutuellement tous, du coup.
Exactement, il y a un vrai soutien entre nous et c'est ce que je dis toujours, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent comprendre. Donc le fait d'être, comme dit Divine, une équipe, d'être ensemble au quotidien depuis le début de la diffusion et de ne pas se juger entre nous sur nos réactions qu'on a pu avoir, c'est hyper important et on fait de très belles rencontres, ça devient des amis, ça devient une famille et moi avec Ludivine, c'est vrai qu'on s'entend hyper bien et on rencontre une autre personne qu'on a pu voir à la télévision qui est parfois un petit peu modifiée parce que ça reste une émission et on rencontre de belles personnes et on est très fiers d'avoir fait ça.
Alors toi Loïc, évidemment l'histoire avec Ophélie, on a vu c'est terminé dans le que sont-ils devenus puisque vous divorcez au bout de quelques semaines. Ça a été une aventure mouvementée hein, je crois pour le coup pour toi du début à la fin, c'est le cas de le dire hein.
Alors oui exactement, ça a été les montagnes russes, hein. On est passé par tout un tas d'émotions, le stress, l'angoisse, l'appréhension, des moments de joie, des moments d'incompréhension, et effectivement la finalité c'est que ça n'a pas fonctionné avec Ophélie, mais on en ressort quand même grandi.
Parce que vous avez essayé quand même, vous avez été quand même assez loin justement dans les valeurs que représente le mariage, en disant faut contente quand même.
Exactement, c'est ça, on est parti du principe que le mariage c'est une symbolique et ça c'est quelque chose de très particulier, il faut aller jusqu'au bout, donc on a été jusqu'au bout de l'expérience, on est resté marié au bilan pour vraiment approfondir après l'expérience, essayer de se revoir, de communiquer, d'échanger et voir si on arrivait à se comprendre vraiment hors caméra, hors contexte de mariage au premier regard. Donc ça n'a pas fonctionné mais on en reste grandi de toute façon.
Ça permet voilà, de connaître plein de gens, de vivre une expérience quand même assez unique. Alors pour toi Ludivine, avec Raphaël, l'histoire a démarré sur les chapeaux de roue avec un effet waouh immédiat, avec une soirée pour le coup de mariage idyllique. Et puis le torchon s'est mis à brûler d'un seul coup pendant le voyage de noces.
Oui, effectivement, ça a été un mariage dingue, enfin une fusion, une alchimie. Et il le dit très bien d'ailleurs. Hein, il y avait cette étincelle. Il y avait voilà, ça a été une journée magnifique et incroyable aussi bien pour l'un que pour l'autre et nos familles. Et puis en fait, au réveil, voilà, le lendemain du mariage, il s'est passé un petit peu comme si le soufflet était redescendu. Et voilà, on était dans une relation un peu plus platonique qui fait que ça a eu du mal à démarrer sur quelque chose un petit peu avec un aspect amoureux et donc malheureusement. Heureusement, je n'ai pas géré cette situation qui fait que on en terminera par un divorce, par des incompréhensions un peu trop profondes, on va dire.
Mais une seconde chance bientôt pour Ludivine. On en est sur la suite de ce best-of et la fin avec Joseph Kamel. On va revivre et terminer l'année comme on a commencé la saison avec notre parrain. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu.
Toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, puis j'avais envie de finir ce best-of avec celui qui a démarré la saison avec nous, Joseph Kamel est le parrain de cette saison de Chut, on écoute la télé. Alors quoi de mieux que de finir l'année avec Joseph Kamel et ses magnifiques mélodies. On va réécouter évidemment le passage de Joseph dans l'émission, c'était le 2 septembre dernier.
Chut, on écoute la télé, le best-of. Le best-of.
Ça va être le parrain de cette nouvelle saison de Chut, on écoute la télé, Joseph Kamel qui est avec nous. Bonjour Joseph.
Bonjour, ravi d'ouvrir cette saison et merci de me nommer parrain, je suis très heureux.
Écoute, nous on est très heureux de t'avoir parce qu'aujourd'hui t'es un des artistes les plus joués en radio. Tu rayonnes à travers la scène musicale française de manière très forte. Tu vas monter sur la scène de la Cigale en février prochain. L'album Miroir cartonne. Tout va bien pour toi, dis-moi.
Bah tout va bien, franchement je suis très heureux. En tout cas, le plus beau c'est de pouvoir me réveiller chaque matin, regarder mon planning et me dire que c'est que de la musique. C'était un rêve de gosse et là voilà, c'est ce que je fais du lundi au dimanche, 24h sur 24 par contre. Mais c'est ce que je fais et c'est énormément de joie et puis évidemment énormément de reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont permis de vivre comme ça de ce que j'aime quoi.
Si on devait faire un petit retour en arrière, à quel moment le petit Joseph que tu étais a su qu'il voulait faire de la musique et a su surtout qu'il voulait en faire son métier?
Écoute, c'est assez flou. En fait, je crois que pour moi, l'idée d'être chanteur professionnel ou même musicien professionnel était quelque chose qui était tellement inaccessible et du domaine du rêve, quoi. Tu vois, comme un gamin qui fait du foot sur un terrain et qui se dit « je veux jouer au PSG ». Pour moi, c'était ça. Donc, quand j'étais gosse, j'avais déjà cette passion, cette envie d'en faire. Mais pour moi, le goal, c'était si je peux avoir un job et puis le week-end faire des concerts, comme je voyais certains amis de mes parents le faire, ou que je peux un jour rentrer dans un studio pour voir comment c'est pour de vrai et tout. C'était ça, mais mes objectifs. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a eu des rencontres, des opportunités qui ont commencé à me faire mûrir l'idée que c'était possible en fait. Et avant que j'aie le temps de réaliser, bah ça y est, c'était possible. Je faisais ça à plein temps. J'ai lâché mon boulot de pion dans un lycée. Et je me suis dit waouh, ça y est maintenant. Tu sais, j'ai le souvenir du premier moment où quelqu'un m'a demandé mais vous faites quoi dans la vie et que j'ai répondu chanteur. J'ai presque envie de chialer. Alors j'étais à la poste en plus, c'est nul. Je me disais tiens, c'est dingue d'avoir ça comme métier. Mon métier, c'est chanter.
C'est des métiers passion. C'est vrai qu'on est un peu sur la même longueur d'onde pour le coup tous les deux quand on te demande voilà animateur radio, que ça peut être le rêve de plusieurs jeunes aussi. C'est des exemples, des parcours comme le tien aujourd'hui. On t'a repéré dans l'émission des artistes hein, sur France 2 qui a été pour toi un tremplin. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un vrai rapport aussi avec la télé pour le coup avec toi dans l'émission aujourd'hui. Et c'est encore plus pour ça qu'on est content de te recevoir évidemment. Mais ça a été un beau tremplin.
Bah ouais, c'était une émission... qui était, encore une fois, si on parle de télé, justement, c'est une première mondiale, ce qu'a proposé Nagui. C'était la première fois qu'on avait un télécrochet d'auteurs, compositeurs, interprètes. C'est-à-dire des gens qui viennent avec tous ces codes qu'on connaît du jury, de la finale, la demi-finale, les votes du public et tout, mais des chanteurs qui chantent leurs propres chansons. Et même si comme ça paraît pas dingue, il faut quand même se dire que Nagui a été voir une des plus grandes chaînes françaises en leur disant « Je vous propose une émission avec des gens qu'on connaît pas, qui chantent des chansons qu'on connaît pas, à une heure de grande écoute en face de The Voice. » Et il y avait que à lui qu'on pouvait dire oui pour un truc pareil. Et pour moi, comme pour tous les copains qui ont participé à cette aventure, ça a été une expérience à la fois professionnelle et humaine qui était complètement incroyable. Et évidemment, à chaque fois que je parle de cette émission, j'ai une pensée très émue pour mes copains de Rookin qui ont perdu Nino récemment, qui était un très très bon ami à moi. Et à chaque fois que j'en parle, évidemment, j'en profite pour faire un coucou à tout le monde.
Alors, cette émission a été un tremplin. Il y a eu un EP pour commencer. Il y a eu l'album Miroir qui est sorti il y a maintenant presque un an, en octobre l'année dernière. Des scènes un peu partout en France aujourd'hui. C'était une volonté directe d'aller défendre tes titres sur scène. De toute façon, ça c'était vital.
Ouais, bah de toute façon, c'est évident. Pour moi, une chanson n'existe que quand elle est reprise par des gens dans une salle ou sur un parvis comme celui sur lequel je suis au moment où on se parle. C'est là où on prend vraiment la dimension d'une chanson. C'est le moment où chacune des personnes qui l'a écoutée dans son coin, qui l'a vécue avec sa propre interprétation, avec son moment, tous ces gens se rassemblent, toutes ces voix se rassemblent, et c'est là que la chanson existe. Et en plus, elle existe différemment tous les soirs. Donc pour moi, c'était vraiment indispensable d'aller le plus possible à la rencontre des gens et de continuer à le faire là avec cette tournée, et en plus avec une bande de potes, donc c'est génial.
Et t'as commencé justement sur scène aussi en faisant les premières parties de Julien Doré. Et ça a été là aussi une véritable rencontre tremplin, puisque ça va être évidemment cette rencontre qui a fait que ce single magnifique que moi j'adore, c'est un de mes préférés de l'album, qui s'appelle Beau, qu'on va écouter dans un instant, a éclos.
Bah, c'était une rencontre complètement dingue. En fait, Julien Doré découvre un de mes titres dans un TGV pour rentrer chez lui. Et à ce moment-là, il aime une chanson qui s'appelle Pardon, qui était sur le premier EP. Et il envoie un message à mes équipes pour leur proposer que je vienne sur sa tournée faire quelques premières parties au début. Et moi, mes équipes me rappellent en me disant « Ouais, Julien Doré t'invite à son Zénith. »
Là, déjà la classe, quand même.
Là, déjà la classe, mais moi, j'ai pas compris. Et en fait, je pensais que j'étais invité dans le public, mais j'étais grave content d'être là déjà. Je me disais « Tiens, il a écouté une chanson, il veut que je sois dans le public, je vais peut-être le rencontrer après et tout. » Et on me fait « Non, t'as pas capté, en fait, tu fais les premières parties. » Et là, ça a été une avalanche de stress énorme, parce qu'évidemment, moi, j'avais fait 2-3 scènes à Caen avant d'arrêter, j'avais fait l'émission. Et après, me voilà pour la première fois sur la scène du Zénith de Caen devant 7000 personnes. Donc, gros coup de flip. La première scène se passe vraiment super bien. Et donc, ce qui était 4 premières parties deviennent 22 premières parties. Je suis Julien sur toute la tournée, quasiment. Et à la 11e date, je prends mon courage à deux mains pour aller le voir et lui dire « Est-ce que t'accepterais de chanter avec moi sur mon album ?» Et il accepte. Et naît cette chanson « Beau ». Et évidemment, ni lui ni moi, on s'attend à autre chose qu'à une chanson qui venait clôturer une belle histoire au final. Et ça devient single de platine maintenant, donc assez fou.
On en écoute un extrait.
Allons-y, avec plaisir, merci.
C'est parti, Julien Doré et Joseph Kamel, Beau. C'est maintenant dans Chute, on écoute à télé.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Chut, on écoute la télé, le best-of. Le best-of.
Ah oui, c'est un peu le tube de l'été, Joseph. Hein. Franchement, on se l'est tous chanté un peu dans la tête. Hein, si tu savais comme c'est beau, c'est ah, génial.
Tu chantes super bien. Je...
Arrête, fous pas de moi quand même. Je suis pas encore ta première partie. Hein.
Non, mais écoute, c'est assez dingue. On en parlait tout à l'heure de ces voix qui s'unissent quand on est en concert. Et sur cette chanson-là, c'est particulièrement vrai. Et à chaque fois, je prends une claque. Quoi. Je sais qu'avec les gars sur scène, c'est notre moment où on se dit waouh, c'est fou que ce refrain qui est né comme ça sur une convoi de sap entre deux potes se retrouve là dans autant de voix.
La célébrité, c'est quelque chose qui t'a fait peur au départ, parce que alors, toi, ça montait crescendo petit à petit, moins violemment que pour ton copain Pierre Garnier, je crois, hein. Mais en tout cas, petit à petit, ça monte bien. Est-ce que ça te fait peur ou pas?
Écoute, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est peu radiophonique, mais je fais un peu plus de 2 mètres. Donc, toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, j'étais habitué à me balader dans la rue et à ce que les gens se retournent un peu sur moi et puis viennent me parler alors je les connaissais pas pour me demander ma taille, machin, etc. Donc, au moment où ça a commencé à changer pour moi dans ma vie pro, en fait, j'ai pas senti tant de différence que ça. C'est juste que maintenant, je me demande pourquoi ils se retournent. Est-ce que c'est parce que je suis grand ou c'est parce qu'ils connaissent les chansons? Mais en vrai, je le vis bien. Je suis toujours... dans ma vie, là, quand j'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours la même équipe. Je passe du temps avec ma famille. Avec mon chat, je joue à FIFA.
La base, quoi.
La base totale. Non, ça a pas changé tant de choses. Évidemment, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce que je peux moins, faire ce que je voulais comme avant, c'est-à-dire, je sais pas, aller faire mes courses dans un survêt dégueulasse du Real avec mes Crocs. Maintenant, je me dis bon, si jamais on me demande une photo, c'est relou. C'est vraiment tout ce que ça a changé. J'ai aussi la chance d'avoir un public qui est hyper bienveillant, qui est hyper cool, et qui, quand ils viennent me parler, c'est jamais intrusif, c'est toujours une discussion qui s'engage, c'est toujours des trucs cool qu'on me dit. Donc honnêtement, c'est un truc que je vis très bien.
C'est chouette. Les projets, on va évidemment évoquer tout ça. Le premier album appartient au public depuis maintenant quasiment un an. J'imagine que la suite se prépare petit à petit. Il y a La Cigale qui va être, j'imagine, une scène qui va être marquante. Pour toi, le 5 février 2025, la tournée va continuer évidemment tout au long de cet automne aussi et l'hiver prochain. Donc il y a encore beaucoup de rendez-vous avec le public qui t'attendent.
Ouais, bah c'est le rêve encore une fois hein, quand je vois ce planning et que je me dis que tout continue comme ça, qu'il va y avoir de nouvelles dates, évidemment il y a aussi de nouvelles chansons qui continuent de germer doucement dans ma tête.
Tu composes tout toi-même, l'album Miroir, c'est vraiment tout toi.
J'ai en tout cas toujours soit écrit, soit coécrit, soit composé et co-composé. Il y a aucune chanson qu'on m'a envoyée. J'ai toujours été à l'initiative des chansons. C'est des choses que je voulais raconter. Après, j'ai la chance de bosser avec plein de musiciens, de réalisateurs de talent.
J'imagine, il y a plein de chanteurs qui te demandent des textes aujourd'hui, un peu d'écrire pour eux aussi.
Bah, c'est vrai que le copain Pierre m'a quand même bien aidé à ce niveau-là. Après, cet exercice-là, c'est une rencontre. Donc, au-delà des messages que je peux recevoir et tout, moi, c'est surtout continuer cette expérience que j'ai pu vivre avec Pierre, qui était d'écrire avec un pote. Et moi, j'ai pas en fait cette capacité qu'ont d'autres auteurs de répondre à distance pour l'instant. On peut pas me dire il faut une chanson pour tel artiste et je l'envoie. Moi, j'ai besoin d'être avec la personne en studio et puis qu'on parle, qu'on cherche ensemble, qu'on se découvre ensemble. Mais j'ai eu la chance de faire plein de chouettes sessions depuis et c'est cool.
Ce talent d'écriture aussi, j'ai l'impression que plus ça va, plus il est reconnu chez toi. Tu me fais penser un peu à Pascal Obispo dans ses débuts.
Eh ben écoute, ça fait plaisir.
C'est vrai qu'il a écrit pour tellement de monde derrière après.
Écoute, ça, il fait partie, ouais, avec Goldman, des deux références que je peux avoir à ce niveau-là, de gens qui ont réussi à la fois à faire connaître leurs chansons et qui ont eu à la fois cette chance de pouvoir écrire pour beaucoup de gens. Moi, c'est deux exercices que j'adore, qui sont totalement différents, mais que j'aime vraiment les deux tout autant.
Je sais que tu seras belle. Je sais que tu rendras le monde plus fort. Dis comment tu t'appelles. Ma fille qui n'existe pas encore. J'ai du temps devant moi, avant toi, pour apprendre ce que j'ignore. 10 ans avant que tu viennes, le monde n'est pas le plus beau des décors. Mais dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Si on a la nouvelle qu'on a gâché le plus beau décor, même si c'est sans appel, sache que je t'appellerai encore. Et je serai toujours là à chaque fois que personne ne sera d'accord. Pour te laisser tes ailes, faudra couper les miennes d'abord. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Et quand je m'endors, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Et qu'on espère encore. Dans ton regard, il y aura ce que les autres n'ont pas pour le voir. Je donnerai tout ce que j'ai déjà. Tu peux me croire avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire, je serai fier de la voir. Ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, ce qu'on a fait, tu peux encore le changer. Dans ton regard, moi je rêve que tu viennes tout déranger. Avant même que tu sois avec moi. Quelle que soit notre histoire,
serais fier de la voir.
Voilà, c'était la dernière hebdo de cette année 2024. J'espère que vous allez passer en tout cas demain un très très beau réveillon pour cette fin d'année et que vous allez passer ces fins de fête en tout cas en famille ou entre amis. Profitez-en bien. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 6 janvier 2025, l'année prochaine. Et oui, du coup, avec de nombreuses stars qui vont venir nous voir. On va parler de la série Extra avec Anne Girouard qui fera sa rentrée avec nous et Stéphane Debac pour cette série. Et puis on parlera de Béni Soit Sixtine avec toute l'équipe qui sera avec nous. On accueillera également l'équipe de Rivage avec notamment Fleur Geffrier, son réalisateur aussi. Vous l'avez compris, ça sera encore événement en 2025 dans Chut, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chut. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.